Serions-nous tentés d'être, si vous me permettez l'expression, des chrétiens planqués? Un planqué, je le dis peut-être pour nos amis qui ne sont pas de langue maternelle française, c'est quelqu'un qui a trouvé une situation facile et qui fait tout pour y rester. Nous poursuivons et terminons ce matin notre série sur les paraboles de Jésus, certaines paraboles de Jésus, dans l'évangile de Matthieu. Et nous allons examiner une parabole dans laquelle Jésus nous met en garde contre une vie planquée. Et il nous exhorte à vivre au contraire une vie de courage, une vie d'audace et de foi, parce que nous avons compris qui il est, nous avons compris ce qu'il nous invite à vivre. Je vous invite à lire la parabole dite des talents dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, les versets 14 à 30. Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Dans les Bibles bleues qui sont sur les bancs, c'est à la page 966. Matthieu 25, versets 14 à 30. « Il en sera comme d'un homme qui, sur le point de partir en voyage, appela ses esclaves et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon ses capacités, et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses esclaves arrive et leur fait rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents vint apporter 5 autres talents et dit « Maître, tu m'avais confié 5 talents. En voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, tu es un bon esclave. » Digne de confiance, tu as été digne de confiance pour une petite affaire, je te confierai de grandes responsabilités, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents vint aussi et dit, maître, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, tu es un bon esclave digne de confiance, tu as été digne de confiance pour une petite affaire, je te confierai de grandes responsabilités, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent vint ensuite et dit « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Esclave mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Alors tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers. Et à mon arrivée, j'aurai récupéré ce qui est à moi avec un intérêt. Enlevez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et l'esclave inutile, chassez-le dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » On l'a déjà vu ces dernières semaines, les paraboles sont des histoires de la vie quotidienne que Jésus raconte pour illustrer son enseignement. Des histoires faciles à retenir et tirées du contexte de l'époque qui parlait donc aux gens. Cette parabole des talents, elle se trouve dans une section de l'évangile de Matthieu où Jésus parle de plus en plus ouvertement de sa mort à venir sur la croix et du sens de cette mort. Jésus l'a annoncé, il va sur la croix donner sa vie en rançon pour une multitude. Chapitre 20, verset 28, il va payer le prix du péché des hommes pour leur permettre de recevoir de Dieu un plein pardon et une vie nouvelle. Mais Jésus parle aussi d'un temps où, après avoir triomphé de la mort, il va quitter les disciples pour un temps. Quitter, entre guillemets, plutôt il ne sera plus visible à leurs yeux. Et il parle enfin de son retour, ce jour où Jésus rendra sa présence et son autorité manifeste aux yeux de tous et où chacun, chaque être humain devra rendre compte de sa vie devant son Créateur. Et par cette parabole, Jésus veut répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'un disciple de Jésus est appelé à vivre en attendant son retour? Question donc tout à fait essentielle pour nous. Puisque nous sommes disciples de Jésus, nous attendons son retour. Je dis nous sommes disciples de Jésus, c'est le cas en tout cas pour la plupart d'entre nous. Et même pour ceux qui ne seraient pas encore disciples, Jésus les appelle par cette parabole à le devenir. On va examiner ce texte en trois étapes. D'abord, on va revenir brièvement sur l'histoire que Jésus raconte, en nous assurant que nous avons bien compris cette histoire. Ensuite, je voudrais nous poser deux questions toutes simples que cette parabole nous pose. Qui est mon Seigneur? Et deuxièmement, qu'est-ce que mon Seigneur m'appelle à vivre? D'abord, quelques remarques donc sur le récit que Jésus raconte. Il nous dit que c'est l'histoire d'un homme qui part pour un long voyage. Le verset 19 laisse entendre qu'il s'absente pendant de longues années et il confie l'administration de ses biens à trois esclaves. Il est utile de préciser qu'à l'époque, la situation des esclaves variait énormément. Dans certains cas, elle était terrible, dramatique. Dans d'autres cas, les esclaves étaient relativement bien traités et pouvaient même occuper des postes importants au service de leur maître. Et c'est le cas ici, dans l'histoire que Jésus raconte. Le maître confie aux esclaves des biens sous forme de talents. Alors un talent, c'était une mesure de poids en argent, un peu comparable, si on veut, à un lingot d'or aujourd'hui. Et ce poids en argent correspondait à une grosse somme financière. On en avait déjà parlé lors de d'autres prédications sur les paraboles de Jésus, puisque Jésus souvent s'inspire du langage économique pour raconter ses histoires. Donc, un talent, c'est une grosse somme d'argent. Attention à ne pas lire ce terme dans son sens français d'aujourd'hui, un sens qui est dérivé d'ailleurs de cette parabole. L'idée n'est pas que les serviteurs ici ont reçu l'un un talent pour la danse et l'autre pour la pétanque ou quelque chose comme ça, mais un talent, ça représentait donc cette grosse somme financière. Et on l'avait vu il y a quelques semaines, ça correspondait à 20 ans de salaire pour un ouvrier agricole. Ça, c'est un talent. Et donc l'équivalent, si on veut, d'un talent aujourd'hui serait environ 250 000 euros. Voilà pour donner une idée. Donc les serviteurs se voient quand même confier beaucoup d'argent. Même si le maître va leur dire « tu as été fidèle pour une petite affaire », c'est quand même une assez grosse affaire. Ils sont chargés de faire fructifier par des investissements l'argent du maître. Et cela est clairement sous-entendu lorsque le maître confie un nombre différent de talents à chacun selon sa capacité, dit-il. Et donc on comprend bien qu'ils sont plus ou moins capables de faire quelque chose avec cet argent. Donc le maître leur confie des biens, non pas pour qu'ils se contentent de garder le patrimoine au chaud, mais pour qu'ils le fassent fructifier. Ce sont en quelque sorte des gérants de portefeuille. Alors il est frappant de voir que le maître connaît bien les serviteurs et il ne leur impose pas plus qu'ils ne peuvent supporter. Notons aussi, c'est très important, que ce sont les biens du maître qui leur sont confiés. Les serviteurs n'ont pas à puiser dans leurs économies personnelles. D'ailleurs, elles étaient inexistantes en tant qu'esclaves. C'est l'argent du maître dont ils sont gestionnaires. Que se passe-t-il ensuite? Le maître revient donc longtemps après, verset 19, et il leur fait rendre compte de leur gestion. C'est une preuve supplémentaire de ce qu'ils s'attendaient à ce qu'ils investissent ces biens. Le premier a investi les 5 talents reçus et il en a récupéré 5 autres comme retour sur investissement. Alors, le texte ne nous dit pas précisément ce qu'il a fait, de quel type d'investissement il s'agit. L'important n'est pas là, l'important est de comprendre qu'il a fait quelque chose avec ce qui lui avait été confié. Même chose pour le deuxième serviteur. Il avait reçu 3 talents, il en a récupéré 3 autres. Et là encore, Jésus ne nous invite pas à nous demander de quel type d'investissement il s'agit, mais plutôt de constater que le serviteur n'est pas resté immobile. Il n'a pas gardé les biens de son maître cachés quelque part ou enterrés quelque part, mais il les a fait fructifier. Mais le troisième serviteur, lui, a préféré rester un planqué. Il a préféré jouer la sécurité. Son maître lui confie un talent. Eh bien, se dit-il, il retrouvera son talent quand il reviendra. Je ne vais pas prendre de risque, je le mets bien au chaud quelque part. Mais lorsque le maître revient, on l'a vu en lisant le texte, il se montre très sévère à l'égard de ce serviteur. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Si vous vous rappelez les deux questions que j'ai posées tout à l'heure, au début du message, il me semble que le troisième serviteur s'est trompé de réponse pour chacune de ces deux questions. Donc on va se reposer ces mêmes questions en évoquant les réponses, entre guillemets, apportées par les serviteurs et les réponses que Jésus nous invite à formuler par nous-mêmes. Donc on va commencer par la première. Qui est mon Seigneur? Qui est mon Seigneur? On ne sait pas exactement quelle image, quelle conception les deux premiers serviteurs avaient de leur maître. Mais en tout cas, ils ont bien compris ce qu'il attendait d'eux. Ils n'ont pas hésité à aller investir son argent. Et il est frappant de voir la grande liberté qui leur est confiée. Liberté d'investir comme ils l'entendent, à condition de faire fructifier les biens du maître. La seule chose que le maître révèle de lui-même, dans les versets 19 à 23, c'est sa bonté. La récompense qu'il offre aux serviteurs qui ont bien investi ses biens, c'est d'entrer dans la joie de leur maître. Alors vous me direz, ce n'est pas un langage très commercial, c'est vrai, on voit que l'interprétation de la parabole se mélange un peu avec la parabole elle-même, mais c'est une façon poétique de leur dire qu'il va les combler, il va leur permettre de vivre à ses côtés en partageant son abondance et sa joie. Et bien sûr, Jésus nous invite à voir au-delà de cette histoire qu'il raconte, la joie que lui-même nous offre en sa présence. Les deux premiers serviteurs ont compris que leur maître leur faisait confiance. Confiance pour faire fructifier ses biens. Et à leur tour, ils lui ont fait confiance. Ils ont été prêts à prendre des risques, à agir avec audace, parce qu'ils ont compris que c'est à cela que le maître les invitait. Mais le troisième serviteur, par contre, justifie sa passivité par une image très négative de son maître. Maître, verset 24, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as pas répandu. Autrement dit, le serviteur semble avoir eu peur de la réaction du maître si ses investissements s'avéraient infructueux. Il n'avait pas confiance dans le caractère bon et digne de confiance du maître, et il a cru que le maître exigerait de lui plus que ce dont il était capable. Mais justement, le maître, on l'a vu au début, a confié des biens à chaque serviteur selon sa capacité. Il ne leur a rien demandé qui était au-delà de leur force. La première et la principale erreur du mauvais serviteur, donc, c'est qu'il ne connaissait pas son maître. Pour le commentateur Pierre Bonnard, le mauvais serviteur a agi, je cite, « moins par paresse naturelle que par une sorte de fatalisme religieux et oriental ». Pour lui, on peut penser, Dieu n'était pas le Dieu personnel et aimant qui donne ses propres biens pour les faire fructifier, mais un Dieu dur qui ne fait que réclamer aux hommes ce qu'ils sont incapables de lui donner. Et même si cette formule est un peu un cliché, il a confondu la relation offerte par Dieu avec la religion échafaudée par les hommes. Il s'est dit, je vais simplement essayer de rentrer dans mes frais, je vais observer les règles, et puis je vais faire le minimum requis et oh, ça devrait passer. Mais la réponse du maître est intéressante, verset 26, parce qu'il ne corrige pas directement la description que le serviteur avait faite de lui. Il montre à l'esclave que même s'il avait été ce maître implacable, cela n'aurait pas dû le pousser à la paresse. Mais au contraire, ça aurait dû le pousser à investir les biens pour que le maître soit satisfait. Le maître met en relief donc l'incohérence du raisonnement du mauvais serviteur et montre que même selon sa propre conception, aussi fausse soit-elle, il aurait dû agir autrement. Et il aurait dû au minimum investir cet argent en banque, pas très difficile ou fatigant à faire, d'autant que ce n'est même pas son propre argent, et le maître aurait au moins pu en récupérer un intérêt. Et nous, quelle est notre image de Dieu ? Alors nous ne vivons pas dans un contexte de fatalisme oriental, comme disait Pierre Bonnard. La tendance de notre civilisation à supposer qu'on accepte l'idée de Dieu, c'est plutôt de voir en lui un Dieu Père Noël, un Dieu qui est toujours à notre service et qui dit amen à tout ce que nous disons et faisons. Alors pour ceux d'entre nous qui sommes chrétiens engagés, on peut espérer que nous ne tombons pas dans ce travers. Mais parfois, un peu planqué, si j'ose dire encore, dans notre confort occidental, ça nous arrange peut-être de nous dire que Dieu est quand même bien loin. Il est parti pour un long voyage et qu'il ne reviendra sans doute pas de si tôt. Et que finalement, ce qu'on vit au quotidien, ça ne doit pas le passionner tant que ça. On verra bien quand il reviendra. Ou alors peut-être que nous nous disons que pour essayer de minimiser nos fautes, on peut essayer de vivre notre vie de la manière la plus réglo possible, si vous me permettez encore l'expression. Et on se dit qu'en visant cette petite vie réglo, eh ben, ça devrait passer pour Dieu. On essaie de se débrouiller à peu près. Mais si nous avons cette conception de Dieu, nous n'avons pas rencontré Jésus. Ou en tout cas, nous faisons comme si nous ne l'avions pas rencontré. Jésus se dévoile ici comme le Seigneur qui nous fait confiance, qui nous donne une grande liberté, mais qui n'en reste pas moins notre Seigneur. Et parce qu'il est notre Seigneur, ce ne sont pas nos biens que nous sommes appelés à gérer, mais ce sont les siens. Oui, Dieu est souverain sur notre vie, au sens où notre vie lui appartient de A à Z, dans les plus petits détails jusque dans les plus grandes choses de notre vie. Et en même temps, la relation que Dieu nous offre n'est pas une relation rigide et servile, mais c'est plutôt une mise en liberté, un envoi pour que nous fassions fructifier sa grâce dans nos vies. Qui est mon Seigneur ? Est-ce que je le vois comme un Dieu Père Noël qui dit oui et amen à tout ce que je fais ? Ou à l'inverse, est-ce que je le vois comme un dictateur qui me demande sans cesse plus que je ne peux offrir, sans aucune garantie, sans aucune promesse ? En fait, la religion humaine a toujours un peu oscillé entre ces deux extrêmes, ces deux erreurs. Ou est-ce que je vois Dieu comme un Dieu de grâce qui me donne tout ce dont j'ai besoin pour vivre la vie transformée qu'il m'appelle à vivre? On en arrive à la deuxième question que le texte nous invite à nous poser. Qu'est-ce que Dieu m'appelle à vivre? Ça fait un moment qu'on parle de cette parabole et on n'a toujours pas précisé ce que représentent les fameux talents dans la parabole. On constate simplement que les deux premiers serviteurs ont vu ces talents comme des ressources à faire fructifier, tandis que le troisième a vu son talent comme quelque chose qu'il fallait mettre de côté pour ne pas prendre de risques. Alors, est-ce que Jésus a voulu parler des aptitudes qui nous sont données ? Est-ce qu'il a voulu parler de la bonne nouvelle que nous sommes appelés à diffuser autour de nous ? Est-ce qu'il a voulu parler d'une certaine manière de vivre, droite, pieuse, honnête ? Je dirais que c'est un peu tout cela, mais c'est surtout plus large que cela, la réalité que Jésus veut mettre en évidence. Tout au long des évangiles, Jésus nous parle d'une vie radicalement nouvelle, qu'il nous offre, qui vient de lui. Et il nous invite, pour vivre cette vie avec lui, à nous défaire de tout ce que nous revendiquons comme étant à nous, en considérant que tout ce que nous avons appartient en fait à Dieu. Il nous invite à vivre une vie qui manifeste que nous sommes ses disciples par un amour à l'image du sien, un amour qui s'abaisse pour élever l'autre. Il nous invite à vivre une foi en Dieu par laquelle on lui fait confiance pour toutes les petites et les grandes choses de notre vie, parce qu'on sait qu'il est digne de confiance. On le connaît. Il nous invite à une perspective totalement nouvelle sur la vie qui n'est plus vue comme quelques décennies à rentabiliser. C'est un petit peu ça la vision dominante de notre société. On a quelques décennies, on va voir ce qu'on peut en faire. Mais plutôt comme un chemin nouveau, vécu comme dans l'intimité avec Dieu, qui nous donne jour après jour des occasions de goûter à son amour et d'être témoin de cet amour auprès de ceux qui nous entourent. Et en fait, si on voulait absolument préciser ce que sont ces talents, je pense qu'on risquerait de passer à côté du sens de la parabole. Parce que Jésus ne nous dit pas dans cette parabole qu'il faut faire ceci ou cela pour gagner sa faveur, mais il nous dit que la vie vécue avec lui, c'est une vie de mouvement et d'audace. Le Seigneur des Seigneurs, celui qui a reçu toute autorité sur l'univers, nous appelle à être témoins de lui dans un monde qui ne le connaît pas. Et c'est un privilège magnifique. Et pour cela, nous n'avons pas à puiser en nous pour trouver des forces, mais à nous en remettre à lui, en lui demandant encore et encore de nous donner la foi, la persévérance, l'amour, l'espérance nécessaires pour vivre cette vie qu'il nous appelle à vivre. Et Dieu nous invite à nous donner tout entier, avec tout ce que nous sommes, notre arrière-plan, nos capacités, nos expériences, à laisser Christ en prendre le contrôle et manifester ainsi sa puissance dans nos vies. Jésus fait cela par l'œuvre du Saint-Esprit, le Père et le Fils ont envoyé le Saint-Esprit pour qu'il fasse cette œuvre dans nos vies, pour qu'il manifeste la présence de Dieu en nous. Et si Jésus raconte cette parabole, c'est pour nous expliquer à quoi ressemble la vie avec lui, et aussi pour nous exhorter et nous avertir. Est-ce que nous avons intégré notre identité chrétienne comme quelque chose qu'on garde bien au chaud, qui n'est pas vraiment très présent dans notre vie quotidienne, mais on pourra toujours le ressortir quand ça servira? Autrement dit, est-ce que nous voyons la grâce de Dieu comme une sorte de ticket pour l'éternité que l'on pourra toujours ressortir de notre poche quand on arrivera devant la porte, après avoir vécu sans vraiment se soucier de Dieu le reste du temps? Ou est-ce que nous avons compris que la grâce de Dieu est une invitation à suivre Jésus? Combien de fois Jésus dit cela dans le Nouveau Testament? Suis-moi. À suivre Jésus, un appel à se mettre en marche. Alors certains se demanderont peut-être, mais par où commencer ? Ou par où reprendre le fil de cette vie avec Jésus ? Il me semble que la réponse biblique est assez simple. Demandez, demandons. Jésus, je le répète, ne nous demande pas de trouver des ressources en nous, mais il nous offre les siennes. Nous sommes invités à lui demander l'amour dont nous avons besoin, à lui demander la foi, à lui demander la persévérance, la force, la consolation. La prière, c'est cela, c'est un canal de communication ouvert en permanence avec Dieu. Et si nous vivons une vie d'audace dans la prière et la foi, eh bien je pense que nous serons surpris de ce que Dieu fera. J'ai été frappé en lisant la lettre de nouvelles d'une amie qui est actuellement en mission dans un pays étranger et qui a prié un matin en toute simplicité pour qu'elle puisse rencontrer des personnes de ce pays qui parlaient français pour pouvoir témoigner auprès d'eux. Et la même journée, une personne l'a entendue parler français avec une autre francophone et est venue à leur rencontre, s'est présentée en disant qu'elle parlait français. Et puis elle et sa coéquipière ont eu l'occasion de rencontrer toute la famille et de témoigner ouvertement de Jésus. Une prière toute simple, l'audace de croire que Dieu va répondre et un exaucement. Oui, je sais, les exaucements ne sont pas toujours aussi immédiats, ils ne sont pas toujours aussi spectaculaires. Mais je crois que souvent nous recevons peu parce que nous demandons peu. Ou alors, dans nos demandes, nous nous focalisons en premier lieu sur nos besoins immédiats, plutôt que sur ce que Dieu nous appelle à voir et à vivre autour de nous. Et je reviens à la question de tout à l'heure, qu'est-ce que Dieu nous a confié ? Il nous a confié une bonne nouvelle qui a la puissance de transformer notre vie et de transformer la vie de ceux qui nous entourent. Alors demandons, croyons et suivons Jésus. Pour conclure, je voudrais évoquer la fin de la parabole. Comme plusieurs paraboles de Jésus, elle se termine d'une manière assez effrayante. Il y en a plusieurs comme ça. Le mauvais serviteur non seulement est sévèrement repris, mais Jésus dit qu'il est chassé dans les ténèbres du dehors. Et ici, bien sûr, encore une fois, l'interprétation de la parabole se mélange avec la parabole elle-même. Ce n'est pas beaucoup de patrons qui ont les clés des ténèbres du dehors. Ici, c'est bien sûr Jésus-Christ lui-même qui parle. Le serviteur est jeté hors de la présence bienveillante de Dieu. Il est condamné à une perdition éternelle. Les pleurs et les grincements de dents, c'était une formule dans le langage de l'époque qui évoque l'amertume et le regret. Et donc la mise en garde est solennelle et elle est sévère. Et il ne faudrait ni la minimiser, ni mal la comprendre. Jésus ne dit pas ici que Dieu pourrait changer d'avis et revenir sur son pardon ou sa grâce si nous avons vraiment accueilli ce pardon et cette grâce. Il ne nous dit pas que s'il nous arrive d'être des chrétiens timides, si nous passons par des moments plus laborieux, plus difficiles dans notre foi, nous risquons de perdre notre salut. Dieu est fidèle. C'est par grâce qu'il nous sauve, toute la Bible en témoigne. Et comme la parabole nous l'a montré, il connaît nos capacités et il nous donnera lui-même la foi et la volonté de puiser à nouveau des forces nouvelles dans son amour et sa grâce. Mais ce que Jésus dit par contre, c'est que certains, tout en ayant toute apparence de piété, peut-être même en croyant eux-mêmes être de bons chrétiens, peuvent passer à côté du message de l'Évangile. Et il faut prendre au sérieux cet avertissement. Si nous pensons que Dieu nous appelle à jouer la sécurité, à passer notre vie à essayer d'être des gens bien, sans trop commettre d'erreurs, sans comprendre que Dieu nous invite à une vie nouvelle, eh bien on est en train de passer à côté de ce qu'est vraiment la vie chrétienne. Si on substitue à la relation vivante que Dieu nous offre une pratique religieuse pour gagner sa faveur, même une pratique qui a l'apparence d'être protestante, évangélique, baptiste, etc., eh bien on passe à côté de l'Évangile. Et passer à côté de l'Évangile, ne pas accueillir la grâce et la vie nouvelle que Jésus nous offre, c'est s'exposer à l'éternité sans Dieu. Mais même si nous sommes authentiquement disciples de Jésus, cette parabole doit quand même nous interpeller et nous interroger, simplement pour nous assurer que nous vivons de manière cohérente à ce que nous professons et pour nous encourager à nouveau à le faire. Les avertissements de la Bible sont souvent très pédagogiques. Ils s'applique de façon très directe et littérale à ceux qui ne vivent pas en communion avec Dieu. Mais pour ceux qui le sont déjà, ils servent aussi de rappel qui nous aiguise et nous remettent sur le droit chemin lorsque nous en avons besoin. Et puis n'oublions pas le contexte de cette parabole dans l'évangile de Matthieu. Jésus invite ses disciples à vivre dans la perspective de son retour. Alors s'il revenait cet après-midi, en ce dimanche pluvieux parisien, est-ce qu'il nous trouverait en train de vivre pour lui ? Ou est-ce qu'il nous trouverait en train de vivre pour nous-mêmes ? Posons-nous cette question. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si nous ressemblons au troisième serviteur, Jésus nous invite ce matin encore à nous tourner vers lui et à accueillir, soit pour la première fois, soit comme à nouveau, cette vie transformée. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette parabole par laquelle tu nous rappelles l'autorité de ton Fils Jésus-Christ. Tu nous rappelles la perspective de son retour. Le temps nous paraît long à nous, cela fait 20 siècles que ton Fils Jésus est ressuscité, retourné auprès de toi. Mais tu dis aussi que, à tes yeux, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Et nous voulons nous rappeler que malgré les apparences, ton retour est prochain. Nous voulons nous rappeler de ce que tu nous invites à nous assurer que nous marchons bien avec toi. Et nous voulons témoigner de cela pour tous ceux qui nous entourent. Nous voulons leur montrer que tu es ce Dieu de grâce qui ne nous fixe pas des règles à suivre qui nous asservissent. Tu es un Dieu qui nous donne ce que tu nous appelles à vivre. Alors aide-nous à demander avec audace tout cela. Au nom de Jésus. Amen.